Avant de se coucher, le mec ici, qui roule ses chaussettes, le mec qui se parle au volant, toutes ces choses de mec seul me font beaucoup, beaucoup rire.
Bonjour.
Arrête ! Arrête !
Pas trop qu'on m'emmerde quand je me tape mon coup de blanc.
Tu me reconnais ?
Quand même pas me buter ce qu'on a.
T'as un gros potentiel de séduction, hein.
Je porte vos valises, c'est mon travail.
Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés ?
Ouais, il dit bien que c'est pas un vêtement banal. T'as bien vu que l'anglais n'était pas ma langue maternelle.
Kiss my ass.
D'accord, faisons comme ça.
Excusez-moi, Jordan. Swiss custom requires 10 minutes of bla bla bla.
L'Oscar, on le pose et on le regarde plus. J'ai un rapport très intime avec mon métier et il n'y a que ça qui compte en fait. C'est vraiment entre lui et moi que ça se passe.
Bravo! Bien sûr! C'est intimidant, hein.
Oh, arrêtez.
Si, si, c'est
alors, intimidant. Là, vous pas nous la faire.
Si, si, bah alors,
mais non,
bah, attends,
c'est pas
bah, alors, c'est, attends, c'est pas un mythe, ça, quand même. On est toujours très, très gênés.
De ça ou
de,
des ce,
de cet exercice-là, tu vois, de là, regarde, tu vois, je sais même pas ce que je suis en train de raconter. Non, mais c'est vrai.
Et on va faire ce
c'est
qu'on
une
a
découverte
dit.
À chaque fois, j'ai une masterclass, tu vois, c'est assez cathartique, quoi. Il faut... je vais découvrir mes réponses, c'est intéressant.
On fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire en bonne coutume suisse, on va faire 10 minutes de blablabla, comme c'est dit dans le film.
Ouais,
vous avez joué un Suisse,
oui,
vous avez
c'est
joué
ça,
un
oui,
banquier
Suisse costume, ah oui, c'est vrai,
ouais.
Exact.
Vous êtes chez vous.
Oui. Tu as une bouche ?
J'ai une bouche, je peux la montrer ?
Voilà. Remets ce masque tout de suite. Non.
Il y a un truc que permet quand même le masque, c'est pouvoir manger de la salade d'œuf, des épinards avant de vous rencontrer,
mm-hmm.
parce qu'il n'y a plus aucun problème.
Il n'y a plus
dans
aucun problème.
Je peux vous parler si
je
vous saviez ce que j'avais mangé
ça.
À midi. On est très heureux de vous recevoir, évidemment, parce qu'on va faire un petit contre-champ. On vient de recevoir Bertrand Blier,
oui.
qui nous a parlé du travail avec les comédiens et les comédiennes. Vous avez travaillé avec lui. Il nous a raconté plein de trucs qui ont aussi fait bien rire l'audience en se disant « Ah oui, tiens, il fait comme ça, etc. » Mais quand on lui a demandé quand même de définir un petit peu, on lui a dit « On va recevoir Jean Dujardin, après, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui poser comme question, etc. » Puis il nous a dit « Alors, c'est vraiment pas du tout la même chose que Gérard Depardieu. Jean Dujardin, il aime bien se marrer, mais c'est quand même un mec qui est très… ça part pas dans tous les sens, il est très structuré, c'est quelqu'un de très sérieux, etc. »
Scolaire même, oui.
Scolaire.
Oui, c'est vrai. Enfin, je prépare comme un ancien cancre, je suppose, comme un vrai angoissé. Moins maintenant, mais c'est une technique que je garde bien volontiers, oui. J'ai besoin de blinder beaucoup de choses. Je trouve qu'on ne fait pas mieux pour pouvoir se libérer sur un plateau et pour pouvoir inventer, quoi. Donc j'apprends très scolairement les choses. Mon scénario devient mon livre de chevet. Et je prends du plaisir à être dans cette espèce de contrainte, oui, scolaire, quoi.
Mais ça veut dire, bon, il y a le scénario, mais qu'est-ce qu'on prépare à côté, en fait, du scénario ? Comment est-ce qu'on se prépare ?
Je sais pas, on prépare... on anticipe, c'est des sensations, c'est des projections mentales, visuelles, mais en même temps, je suis aussi dépendant des partenaires avec qui je vais jouer. Je ne sais pas encore quelle va être la musique de la personne en face de moi, comment elle va, où il va me le dire, ce que va me demander le metteur en scène. On va tourner la nuit. La nuit, c'est étrange de tourner la nuit, par exemple, aussi. Pas toutes les nuits, mais tourner les nuits, à un moment, tu comprends plus bien ce que tu fais. À 3 heures du mat, pourquoi je dis ça ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est quoi ce métier ? T'es pas un peu con ? Et donc tout ça, je le devance, j'anticipe tout, en fait. J'essaie, mais en fait, on peut pas tout anticiper.
Et comment est-ce que, là, il y a beaucoup dans la salle, il y a beaucoup de jeunes réalisatrices et réalisateurs. Nous, comment est-ce qu'on peut vous aider dans ce travail ? On peut vous aider ou pas dans ce travail d'anticipation et de préparation, outre le scénario et les discussions qu'on a avec vous ?
On peut faire du ping-pong avec un copain acteur. Je peux... m'aider, c'est-à-dire...
Les réalisateurs, par exemple, qu'est-ce qui vous aide ? En quoi est-ce qu'ils peuvent vous aider dans cette préparation ?
Les réalisateurs, c'est pas très compliqué, je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ferais si j'étais metteur en scène. Mais je pense qu'il faut qu'on nous aime. Il faut qu'on nous aime, il faut qu'on nous rassure, il faut qu'on nous cajole. Enfin, un bon metteur en scène, c'est quelqu'un qui aime bien ses acteurs, qui le regarde bien. plus on t'aime et plus tu peux, comme dit Claude Lelouch, battre des records. Mais c'est vrai d'ailleurs, c'est là où on est le plus à l'aise. Donc c'est une perpétuelle mise en confiance de tes soldats, quoi.
Mais vous, par exemple, c'est le fait qu'on vous parle beaucoup du rôle ou pas du tout, vous n'aimez pas les réalisateurs ou les réalisatrices qui viennent vous parler beaucoup?
Non, c'est de sentir, en fait, c'est pas tant le rôle c'est mon affaire. Enfin, je veux dire, on sépare bien les choses. Je pense que le metteur en scène raconte l'histoire, ça c'est son travail, et nous prêtons des émotions, etc. Il faut qu'on l'aide à raconter une histoire, il faut vraiment qu'on l'aide, nous on est là pour l'aider, pour faire accoucher cette histoire. Non, après, c'est plus dans une façon d'être, dans une décontraction, dans un... comme si tout ça n'était pas très grave. Il ne faut pas que ça soit inhibant, il faut un peu démythifier aussi, parfois, je prends souvent le moteur demandé, par exemple, qui est un peu... qui peut être un peu... un peu inhibant. Moteur demandé, action, c'est une grosse promesse. Moi, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça va sortir. Ça va peut-être être un peu désordonné. Donc, c'est relativiser, c'est dire... On a tous bien travaillé, on a bien fait les choses. Je trouve que quand tu as un auteur, et c'est le cas, Olivier Demangel qui a écrit le scénario, on a Cédric Jiménez, je parle de mon prochain film, qui va réaliser, les acteurs là qui se mettent en place, on ne s'est pas encore rencontrés, mais très vite. Quand tout le monde a bien travaillé, on a juste maintenant à se détendre, à dire voilà, on va essayer de faire le meilleur film possible. Parce que de toute façon, dès lors que le film commence, il est déjà en retard. Parce que c'est le cinéma, parce qu'il y a des impondérables, parce que l'éclairage, la pluie, le temps...
C'est un mot qui est revenu souvent tout à l'heure, décontraction.
Ouais.
Blié a dit plusieurs fois, moi j'essaie d'être décontracté.
Il l'est
vraiment ?
Ah bah oui, non mais Blié, il a inventé le mot, la décontraction. C'est très important pour Bertrand, c'est aussi important de faire l'apéro à 17h que de faire une bonne journée de tournage. Sur le bruit des glaçons, il a arrêté, mais vraiment, il dit stop. Maintenant, c'est la bouffe. Et on avait du pâté, mais comme ces personnages dans Calmos, quoi, comme Marielle et Rochefort. On mangeait du saucisson, on partageait un moment. Parce qu'après tout, c'est pas tout le temps pour un metteur en scène. C'est difficile de faire un film, de monter un film, c'est compliqué. Donc quand il y a une bonne ambiance, une bonne équipe, un bon projet, quelque chose de singulier, de savoureux, on a envie de se souvenir de tout, et pas que du film. Et il sait que c'est aussi la santé de son plateau. Par exemple, un fou rire... Il n'y a rien de plus chiant qu'un metteur en scène t'engueule parce que t'as un fou rire. C'est une bêtise. Parce que plus tu dis « concentre-toi, ça va pas, s'il te plaît », non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce fou rire? Ou il est gênant, ou il est parce qu'il est gêné, donc il a besoin de l'expulser, ou alors c'est parce qu'il se sent bien. Et ça, c'est vachement bon, quand un acteur se sent bien sur un plateau, quand il veut pas se barrer tout de suite. Et donc, ça veut dire, en gros, le fou rire, c'est comme un enfant. Tu vas pas dire « arrête, faut le laisser filer ». Et puis, à un moment, ça diminue. Et puis, on peut reprendre le travail. Ben, c'est exactement ce que faisait Bertrand avec Dupontel et moi.
Mais par exemple, tout ce travail dont vous avez parlé avant, c'est-à-dire beaucoup se préparer, essayer de réfléchir au personnage, à la limite, faire plein de choses, mais qui pourraient...
C'est pas systématique. Hein.
Ouais.
Il y a des rôles pour ça. Hein. Il y a des rôles, notamment le prochain, mais par exemple, le Dain, par exemple, est un truc où je me jette complètement dedans. Je dis oui en 10 secondes à Quentin. Et je ne sais pas pourquoi, c'est très mental. Je dis... Je comprends ce délire. Je ne sais pas pourquoi je le comprends. Je le comprends toujours pas. Enfin, j'en sais rien, d'ailleurs. Mais un mec qui s'enferme avec un blouson, qui parle à son blouson, qui dit « style de malade ». Le mec a essayé de rêver ce truc-là. C'est peut-être la première fois qu'il se veut du bien, je me suis dit. Tu vois. Mm-hmm. Il se fait plaisir. Il devait avoir un boulot chiant, une famille chiante. Bon, ben, on efface tout. Je me mets dans un hôtel avec un blouson que j'aime bien. Mm-hmm. Ça me parle.
Et qu'est-ce qui fait, par exemple, comment est-ce que, par exemple, ce que vous dites, le fait que Quentin Dupieux, vous avez senti qu'il vous aimait, comment ça s'est passé, par quoi?
Quentin, il y a une décontraction aussi qui est géniale. D'ailleurs, c'est un des enfants, j'allais dire, de Blié. Ils sont très proches. Enfin, il y a un héritage comme peut-être la poésie en moins, mais comme Caverne des Lépines aussi. Il y a une filiation, quoi. Et Quentin, c'est pareil. On sent que rien n'est grave. Déjà parce que c'est une toute petite structure en fait. Il y a lui, sa caméra, il cadre. T'as un ingé son, on est trois dans la pièce. Quand il me dit tu vas parler à ton blouson, on est parti sur un plan séquence, il me filme, il me dit vas-y, c'est quand tu veux. Bon, moi je suis en train de faire un film normalement qu'il ne faut pas faire, quoi. C'est un film interdit, quoi. Mais il n'est pas encore sorti, il n'existe pas, il n'y a pas de pression. On est décontracté, donc on peut tenter plein de choses. C'est aussi ça. Hier, je disais, quand on a refait la remise de prix à Bertrand, enfin, je disais que c'était un, et je le pense vraiment que c'est un, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer de ça, mais c'est un inventeur, Bertrand Blié. Il a toujours fait, comme il a dit, il a fait tapis. À chaque fois qu'il avait des grands succès, il a repris cet argent pour faire tenue de soirée. Il fait Trop belle pour toi. Bon, ben, le mec, c'est d'une grande, grande liberté, d'une grande audace. Et puis, pourquoi? Parce qu'il veut sans arrêt réinventer son art. Et je pense que pour un metteur en scène ou pour un acteur, il faut avoir cette prétention-là. Se dire, je ne serai pas normé. Je ne veux pas ressembler au dernier mec qui a fait le dernier film du film indé américain parce que c'est super branché, parce que je l'ai lu, parce qu'il faut que ça soit vu. Ou... Il y a un moment, tu dis, on s'en fout. Enfin, je veux dire, fais ce que tu as envie de faire, toi. Qu'est-ce qui t'anime, toi? Tu as forcément une personnalité, tu as un truc un peu étrange, tu as une étrangeté. Tu le sais que tu as une étrangeté. Elle n'est pas honteuse. Elle est peut-être, c'est peut-être ce qui va te faire justement grandir et qui va peut-être faire de toi. Qui va te donner une vie meilleure. Enfin, c'est ça l'idée.
Quand justement on est chez quelqu'un comme lui qui est un inventeur et qui a aussi inventé une façon pour les acteurs de jouer, d'être dans
musique,
physique,
ouais.
Une musique,
une partition.
Quand
ouais.
On va chez lui comme acteur, est-ce qu'on se dit quelle place je vais avoir dans ma forme d'invention? Vous en avez aussi une. Vous avez posé en fait quelque chose dans le cinéma français qui n'existait pas exactement à cet endroit, qui est une forme en fait d'humour décalé, qui était plutôt un humour décalé qui venait d'Amérique du Nord. Vous l'avez accommodé, vous avez trouvé une solution pour en faire quelque chose de très francophone. Mm-hmm. Vous avez une forme d'invention vous aussi, vous avez amené en fait une forme d'invention dans la comédie à la française, pas que dans les films en fait au SS 117, bien avant ça d'ailleurs,
oui.
Dans le fait d'être dans le corps, de revendiquer en fait dans le fond une présence physique forte. Quand vous allez chez Blier, vous vous dites comment est-ce que je peux apporter ma petite invention dans son invention qui est tellement grosse déjà et déjà tellement présente.
Ouais, malheureusement, quand tu arrives chez Blier, tu ranges tes affaires et tu les sors que si ils te le demandent. Parce que, en fait, c'est aussi ça, mais c'est une contrainte que tu acceptes bien volontiers. C'est vraiment une partition, Blier. Blier, il te dit vous avez la main molle. Non, vous avez la main molle. Vous avez la main molle. Non, vous avez la main molle. Ça va te faire commencer. Tu sais pas comment il t'entend. Tu ne sais même pas. Mais il faut trouver le chemin. Je savais qu'il voulait absolument, c'est ce qu'il m'avait dit d'ailleurs avant le tournage, m'enlever de la vie. Il me dit, t'es un acteur qui a de la vie, alors on va éteindre ça, puis tu vas grossir, tu vas manger du cochon, hein, tu vas te mettre la barbe. La barbe qui est un truc aussi, parce que il y a toujours une espèce de, comme ça je le vois, mais il y a toujours ce prolongement du metteur en scène chez les acteurs. Mmh. Il avait mis la barbe chez Devers dans Préparez vos mouchoirs, il lui avait mis la pipe aussi, c'est pas rien, je pense que des fois c'est pour... une espèce d'extension de même, comme ça.
Piccoli disait qu'il fallait copier le réalisateur.
Oui, ouais, c'est pas con.
Il faut l'imiter.
Oui, c'est pas con. Bah, tu regardes Le Dain, typiquement, enfin, j'imite Quentin. Mm-hmm. Si je vais voir Quentin dans la vie, je parle comme Quentin. Alors, Quentin, il parle comme ça. Il fait, non, c'est cool, c'est bien. C'est bien. Ouais. Non, ça claque. C'est pas du tout bizarre. Non, c'est super. OK. Mm-hmm.
Tout à l'heure, il nous a dit l'inverse. Il nous a dit, non, mais vous savez, moi, les acteurs, je les laisse très, très libres. Ils viennent sur le plateau. Je suis très à l'écoute des propositions qu'ils vont me faire.
Non, c'est un vieux salaud.
Il nous a menti.
Non, c'est une ordure au fond.
Ouais.
Humainement, c'est une ordure. Ouais. Non, mais non, c'est pas vrai. Non, il est, c'est très, très, c'est très, très, très écrit, Bertrand. Il faut que ça reste très, très, très écrit.
Ouais.
Et
je parle de Diable sur la main parce que je pense qu'il dit quelque chose que vous dites aussi, c'est-à-dire, je pense pas qu'il va vous réprimer s'il y a un sourire ou qu'il y a un mot qui sort.
Non. Non, bien sûr que non, parce qu'il a une, parce que pour écrire ce qu'il écrit, pour écrire Le bruit des glaçons, pour écrire une relation entre un homme et son cancer. Il faut beaucoup de poésie, mmh. Il faut beaucoup de sensibilité, il faut beaucoup d'intelligence. Chose qu'on n'a pas tournée, d'ailleurs. Mmh. Nous, on a un souvenir avec Albert très, très, très différent. On a l'impression d'avoir fait une comédie de deux crétins dans une maison. Et puis, on voit le film et on se dit, mais non, c'est pas ce qu'on a tourné. Mais c'est incroyable. Et il a eu raison. Et en fait, finalement, le rôle, il est surtout autour d'Anne Alvaro,
ouais.
Qui est secrètement amoureuse. Ça, c'est une très grande, c'est une très, très belle idée de voir le cancer d'un homme qu'on aime. C'est une idée fantastique, romantique. Enfin, mais évidemment, il y a un sourire. Il peut le prendre parce qu'il a ça, cette extrême sensibilité et que si ça s'insère bien dans la séquence, il n'y a pas de souci.
Il a utilisé un mot qui
ne prend pas la main à ce point-là.
Il a utilisé un mot qui résonne avec celui que vous venez de dire. Il a dit « Je ne réprimande pas les acteurs. » Comme on aurait pu réprimander un écolier. Puis vous êtes venu en disant « Je suis très scolaire. Je suis un bon camp. » Donc vous avez reconnu peut-être chez lui le fait qu'il n'allait pas vous réprimander et que vous pouviez venir avec votre cahier d'école de ce que vous aviez appris pour le mettre en place.
Mais peut-être qu'on se retrouve sur des choses qu'on ne sait pas encore avouer avec Bertrand. C'est quelqu'un qui est évidemment beaucoup dans la retenue. Je peux l'être aussi. Il y a des zones, il y a des zones d'ombre qu'on doit partager, qu'on n'a pas encore échangées. Alors peut-être qu'il les a senties. Mais
avant de travailler avec lui, vous vous étiez demandé qu'est-ce que ça avait construit dans votre façon de jouer les films qu'il avait faits avant. Parce qu'on peut se dire, pour des acteurs de votre génération, évidemment, vous êtes bien plus jeune que les acteurs avec lesquels il a commencé à tourner. Malgré tout, ben, quand on est un homme, voilà un réalisateur français qui a donné des rôles d'hommes qu'on n'avait pas vus avant, qui a ouvert, en fait, qui a élargi un peu le champ de ce qu'on pouvait imaginer être possible dans le cinéma français pour les hommes. Est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'inconsciemment, Devers, Depardieu, tous ces gens, ils ont construit quelque chose sur votre façon, peut-être votre désir, puis après votre façon de jouer?
Oui. Oui, je pense qu'il y a, certains points, d'ailleurs. C'est des personnages qui disent tout, très vite, qui commentent même. Regardez les films de... Dans les films de Bertrand, tu vois à un moment Marielle qui dit « parce que je vous braque avec mon arme ». Ça, c'est presque une didascalie. Mm-hmm. Didascalie, ce sont les descriptions qu'on a dans les scénarios, etc. Donc, en fait, les personnages disent... Et c'est assez marrant que c'est des personnages qui disent la vérité. Brice, c'est un personnage qui dit la vérité. Mm-hmm. C'est des personnages sans filtre. Ouais. C'est des enfants qui... C'est des enfants. C'est des hommes-enfants chez Bertrand. Beaucoup. On l'a traité dès les valseuses, évidemment, parce qu'il a eu du succès et qu'il fallait bien un peu l'abîmer quelque part. Mais on disait que c'était un metteur en scène misogyne, alors que c'est vraiment, pour moi, tout le contraire. On voit une fois de plus dans Le bruit des glaçons, dans Préparez vos mouchoirs, à chaque fois, la femme est une piéta qui porte cette espèce d'imbécile qui n'arrive pas à réfréner ses pulsions, sa connerie...
On pourrait vous dire, c'est un rôle qu'on donne souvent aux femmes, de se dire elles doivent porter les hommes qui sont des pauvres enfants, etc. Je pourrais vous dire.
Non, mais fais pas que ça. Hein. Attention, c'est pas que je materne et je t'écoute. Mm-hmm. C'est non seulement je te materne, mais t'as intérêt à me faire jouir. Mm-hmm. Tu vois, c'est aussi ça. Il y a une pression, il y a une demande. Elles sont des femmes très très actives chez Blier. Il y a toute cette modernité là. Donc ça veut dire en gros, il y a une prise de risque, une liberté qui est très très séduisante et effectivement. Je vais plus le chercher chez des metteurs en scène comme Blier, comme je vais chercher une façon de jouer chez Claude Lelouch. Mmh. On avait dit, c'est le cliché maintenant de dire qu'en fait, il décontracte, enfin, il libère les acteurs, mais c'est vrai. Enfin, Vincent Pérez peut en témoigner, c'est extraordinaire de jouer avec Claude Lelouch.
Comment il les libère alors? Ça se passe par quoi? De façon différente que
Blier?
Parce
qu'il vous aime aussi, parce qu'en fait, il tourne beaucoup, parce que souvent, il met deux caméras, parce qu'il y a le texte. Comme il dit, il y a la figure libre, la figure imposée, et il peut se passer plein de choses. Mmh. Donc on est en confiance. On sent qu'il se marre. On l'entend se marrer, d'ailleurs. Hein. Il est sur le plateau, il se marre, derrière la caméra. Et donc on se dit, ça vous transcende. Et puis vous sentez que vous avez du talent. Et vous sentez que... Enfin, vous avez du talent. Ça veut dire que vous êtes en verbe.
Ouais.
Et que ça se passe bien. Et puis qu'il gardera le meilleur de cette séquence-là. Et on peut partir sur des impros de 15 minutes. Et donc ça veut dire que vous êtes... différent.
Vous vous souvenez comment vous vous êtes préparé quand vous êtes allé chez Claude Lelouch, hein, ou peut-être que vous n'êtes pas préparé?
C'est pareil, je ne me suis pas vraiment préparé.
Ouais.
Alors de toute façon, c'est compliqué de se préparer parce que Claude, il vous met dans l'avion et on commence dans l'avion. C'est-à-dire que je commençais dans le cockpit avec le vrai pilote et puis sorti, on est arrivé à New Delhi, il s'est mis sur un chariot avec la caméra comme un étudiant et puis il s'est dit vas-y, tu sors de l'avion et tu prends ton téléphone et puis t'appelles ta femme et puis tu lui dis ça, machin, vas-y, ok, bon, alors j'appelle ma femme, donc comme dans la vie en fait, hein, c'est pareil, ok, ouais, j'ai l'air d'arriver, écoute, là, je suis là, et ça, tout le voyage, et tu prends des bateaux, tu prends des avions, tu prends des trains, tu dis je vais faire une impro avec Elsa, je vais pas lui dire. Tiens, je vais lui balancer un truc. Et puis Elsa, qui est une actrice de comédie extraordinaire, elle te suit immédiatement et ça te fait ça peut faire des choses assez étonnantes, quoi.
Parce que c'est très... Vous avez dit deux choses qui sont justes. Enfin, là, quand il vous dit « Prends ton téléphone, appelle comme si t'appelais ta femme, on est arrivé, etc. », vous êtes dans un niveau de réalité, en fait, qui est assez proche de celui de la vie de tous les jours.
Mais complètement. J'ai 8 heures d'avion, j'ai dormi 3 heures, ouais. Je suis claqué, je suis boursouflé, j'arrive en Inde. Il y a un choc olfactif quand même assez fort.
Ouais.
C'est l'Inde, hein. c'est une terre, c'est le chaos l'Inde, hein.
Ouais.
c'est vraiment violent, quoi.
Par contre, quand vous êtes effectivement, et vous avez raison de le relier en fait au cinéma de Blier, quand vous faites Brice de Nice ou que vous jouez chez Blier, le personnage, lui, alors il est dans un univers qui semble être très réaliste, mais lui par contre, il porte avec lui un niveau de réalité qui est complètement différent.
Ah oui.
Il n'a aucune réaction, est normale. Tout ce qu'il fait est anormal, mais le cadre autour de lui est normal.
Oui, c'est important de ne pas décaler, effectivement, de ne pas décaler ce qu'il y a autour.
Alors, mais par contre, vous êtes mélangé, quand vous êtes chez Lelouch, vous vous mélangez, en fait, dans le fond, au même niveau de réalité. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose dans le jeu, ou vous êtes. La façon que vous avez de construire le jeu, quand vous êtes vous-même une pièce rapportée irréelle dans un monde réel.
J'ai rien compris.
Je recommence. Vous voyez la différence qu'il y a quand même entre faire Brice de Nice et le film de Lelouch, ou pas du tout?
J'ai une petite semaine ou pas quand même pour réfléchir à ça?
Non, maintenant.
Ok.
Pour vous, ça n'a pas de différence, par exemple, dans technique de jeu, en termes de technique de jeu ?
Si, c'est très, très, très différent. C'est vraiment... Claude vous demande, par exemple, il y a des succès, c'est pas mal d'agir en exemple, comme ça on comprend mieux, mais tout ça pour ça, par exemple, la séquence de Lucchini dans la tente, quand il part en toupie, elle devient presque le film, j'allais dire. C'est une proposition de Lucchini. À lui de le saisir. Et tant que le film n'est pas monté, il n'existe pas. Donc en fait, il se laisse tous les procédés, il les prend et puis on verra bien. À la fin, on en fera quelque chose. Bertrand, c'est autre chose. Bertrand, il y a une réflexion, il y a une écriture. C'est un écrivain aussi, Bertrand. Je dis pas qu'il n'y a pas de réflexion chez Claude, loin de là, mais ils sont assez éloignés quand même.
Et donc, vous vous préparez, par exemple, pour le film de Lelouch, il n'y a pas véritablement de texte à apprendre avant, ou il y a un petit peu du texte quand même ?
Ouais. Un petit peu, si, un petit peu. L'essentiel, l'essence. Il faut prendre l'idée, le parfum, et puis ensuite inventer, tourner autour.
Et est-ce que le réalisateur vous donne ? Puis est-ce que vous pouvez aller chercher vous autour pour un film comme celui-ci ? Vous faites quoi ? Vous regardez de nouveau les films de Lelouch pour comprendre un peu comment ça fonctionne ? Ou surtout pas, en vous disant, il ne faut pas trop que je regarde comment les autres...
Non, je peux les regarder. Non, j'aime bien les regarder. Non, je suis spectateur des films. Je ne me plonge pas dans tous les films. De toute façon, c'est pas toute ma vie non plus, le cinéma, je veux dire. Il faut rester un peu au large. Enfin, je trouve qu'on est, plus disponible et créatif quand on s'en écarte un petit peu, quoi. Parfois, le cinéma peut être un peu comme l'alcool. Ça peut être un peu un mauvais copain parce que tu peux croire à ce qu'on peut dire de toi. Ou faut se méfier un peu de ça, de tout ce qui brille. Tu peux perdre un peu le bon sens, quoi.
Le cinéma, c'est pas que ce qui brille. Quand vous dites ça,
non,
la
carte
quand je dis
tout ce qui brille ou s'enfermer dans une idée de toi et dans une gourmandise, en tout cas. L'idée, c'est quand même de durer aussi, c'est de rester, c'est de retrouver à chaque fois. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de me dire que peut-être, si je vais jusqu'à là, à 90 ans, j'aurais fait un bout de chemin, j'aurais exploré pas mal de choses. Je veux pas tout manger tout de suite. Je suis pas boulimique de travail. Je fais deux films par an. Je reste exigeant. J'essaie d'alterner mes envies, mais je me laisse aussi surprendre par des scénarios. Ça me parle immédiatement ou ça me parle pas. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé, mais je me suis pas vu dedans. C'est quelque chose de très chimique. Et voilà.
Ça veut dire qu'il y a une idée de carrière. Quelque chose qui va se comprendre sur une photo plus générale qui devrait se comprendre
peut-être,
sur le long terme.
Peut-être, effectivement. Il y a peut-être un truc qui se comprendra à la fin. Il y aura des névroses récurrentes.
Et vous avez l'impression de voir déjà quelque chose qui se dessine ou vous allez vraiment en disant...
Si on regarde un peu, il y a des choses assez marrantes. Il y a la solitude des personnages.
Ouais.
Il y a quelque chose autour de la solitude. Et j'ai l'impression qu'on a tous... Là, ici, on a tous des moteurs de vie. On a boxé forcément contre quelque chose. Ou parce qu'on était une brêle en classe, on s'est senti un peu con, ou parce qu'on était le deuxième de la famille, donc on est pris entre l'aîné et le troisième. C'est des exemples.
Ouais.
Donc on boxe, et il y a des moteurs de vie. Donc moi, j'ai pensé à un moment que j'étais un âne pendant ma scolarité. Quand on te dit que t'es un âne, tu peux le croire, et puis plus bouger, ou alors dire non, en fait, je crois pas. Non, en fait, il y a d'autres choses. Et tu commences à t'animer.
Mais cette solitude, elle raconte quoi dans les films ? Elle raconte
quoi
de ça ?
Je sais pas. La solitude, il y a une solitude d'enfant, enfin, une solitude que j'ai pu vivre, qui m'a touché, qui m'a même parfois. J'ai pu goûter parfois l'humiliation. Et l'humiliation, on la retrouve dans Brise de Nice, par exemple. Quand je fais des casses contre casses, avec des mecs qui tombent dans la piscine et qui font casser, etc., ça, c'est de l'humiliation pure.
Ouais.
C'est la cruauté que tu as à l'école quand t'es gosse, quand tu dis que c'est tes meilleurs potes, tu vois, qui sont très sympas dans la cour et qui sont des ordures quand t'es en panique au tableau. Il n'y a plus aucune solidarité, quoi.
Ouais, ouais.
Et ça, tu la vois assez tôt, donc tu dis « Ah, c'est intéressant, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer encore dans la vie. » Donc ça t'apprend aussi à te méfier, et pour te méfier, des fois, c'est rester un peu en fond de cour et rester un peu seul. Et que je cohabite bien seul aussi, ça ne me dérange pas d'être seul. Je me dis « J'avance. » Donc c'est des personnages que je retrouve. Brice est un personnage en circuit fermé.
Ouais.
Brice, c'est pas que je t'ai cassé, etc. C'est un personnage qui attend une vague là où il n'y en a pas. Hein. C'est quand même un...
Ouais, ouais, ouais.
Mais
ça, c'est un personnage très à l'abli, pour le coup. Un type
un
qui attend une vague à un endroit dans lequel il n'y a pas de vague
et qui le dit.
Ouais.
Un peu, et c'est vrai. Le Dain est un personnage esselé. OSS aussi, dans sa bêtise, il y a de ça. J'accuse, le personnage de Picard est très seul. Je suis apparemment attiré par ce genre de personnage-là. Et comment arriver à prendre le dessus, comment intéresser avec ces personnages esselés.
Parce que pourtant, on vous imagine très en bande. Vous avez une bande de personnes qui a travaillé avec vous au départ, puis après vous avez des... On a l'impression que vous appartenez à une famille de cinéma qui est très constituée.
Mais ça c'est ce qui a été inventé. Ça c'est bien, ça fait partie des petits mouchoirs, tout ça. Là, on pense qu'on... Non, on n'est pas du tout. Moi, je suis pas du tout une bande. Je suis pas bande du tout.
Ouais.
Non, je suis pas bande. Il y a des acteurs qui sont très très bandes. Gilles adore ça. Il a besoin d'une bande. Ça le constitue. Gilles, c'est un copain absolu. C'est un mec. Je n'ai pas besoin de bande, j'ai pas envie de bande, j'ai pas d'habitude, j'aime retrouver mes potes des Nous c'est nous du début,
ouais.
J'aime pouvoir faire un film avec Gilles, j'aime pouvoir rencontrer un tel, mais j'ai pas fait ce métier-là pour être dans une bande, non.
Mais vous n'aviez pas tellement le goût de l'école, des colonies de vacances, l'humiliation, vous êtes allé à l'endroit...
Je suis pas très sport-co, par exemple.
Ouais. Mais pourtant, vous faites alors vraiment le métier dans lequel on se retrouve très souvent sur des sortes de colonies de vacances géantes, qui sont les tournages de films où il y a
Mais là, c'est différent parce que c'est une armée.
C'est une armée.
Dites-moi quoi, c'est un brassard nazi, c'est d'un coup. C'est une armée. Non, je dis c'est une armée parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est ce que disent les gens qui ne connaissent absolument pas le cinéma. À chaque fois, ils arrivent et disent mais tout le monde sait ce qu'il a à faire en fait. Mm-hmm. Immédiatement, si on change de plan, et ça fait. Tiens, tu me passes un machin. Et ça, je trouve ça génial. Moi, je suis jamais dans ma loge. J'adore rester là et regarder ce que fait l'ingé son, le machin, le chef opérateur, et tout ça se met en place et c'est absolument génial. Je veux dire qu'il y a peu de métiers où on a besoin autant des uns et des autres. Sinon, la chose se fait pas. Au début, on a une espèce de projet qui est comme ça, un peu protéiforme, et la boule se façonne, et les jours avancent, et on commence à avoir des séquences. Le film prend vie. On a un monteur qui t'appelle et qui te dit c'est bien, remets-moi un peu de ça, oui, un peu de ça. Et ça prend forme, ça, c'est super.
Et on n'est pas seul à ce moment-là. Vous n'avez pas l'impression d'être seul des fois quand vous êtes au milieu de cette agitation?
Si, bien sûr, je suis enfermé. Quand je fais Picard dans J'accuse, je suis très très enfermé. Je suis complètement enfermé. Dans mon esprit, on peut être très très seul avec beaucoup beaucoup de monde. Mais ça, c'est mon problème, ça, c'est mon truc. Ça ne veut pas dire que j'apprécie pas les humains qui sont autour.
Être sur le plateau, souvent, on vous dit aux jeunes réalisateurs surtout, préserver les acteurs, il ne faut pas trop qu'ils voient à quel point c'est compliqué, ce qui se met en place sur le plateau, il ne faut pas qu'ils sachent à quel point le plan va être compliqué pour pas que ça les stresse. Ça ne vous stresse pas, vous, de voir toutes ces petites personnes en train de bosser?
Non, mais ça, c'est des trucs, il y a un moment, il y a des divas, il y a des mecs, bon, si tu veux, tu peux, mais une fois de plus, tu as fait ton petit travail de ton côté, tu n'as pas la moindre des choses quand même, c'est... Tu arrives, tu sais ton texte, tu dis bonjour à tout le monde, tu respectes, tu peux te planter, tu as le droit de te planter aussi, de dire attention, je vais me planter, comme le cadreur va se planter. Toi, tu peux te planter dans ton texte. Tout le monde va se pardonner. Si on commence à y avoir... Tu peux pas venir avec un ego sur un tournage. Tu peux venir avec de l'orgueil, parce que c'est normal, il faut en avoir, mais tu viens pas avec un ego. Tu viens pas en disant...
C'est quoi l'orgueil alors sur le plateau?
L'orgueil, c'est peut-être le moteur qui va faire que tu vas monter la scène.
Ouais.
Tu vas même dire à un moment, tu vas sentir une apathie dans la séquence, parce qu'il est tard, parce que là, tu sens l'équipe, etc. Et moi, j'ai tendance à faire « Oh, allez, oh !» Et les mecs font « Ouais, voilà, j'ai besoin de ça. On s'entend plus, on n'entend plus. Il y a une espèce de... la scène commence à se ouater, tout devient sourd, et c'est pas bon. C'est pas bon, parce qu'on a une journée pour faire une séquence, donc il faut qu'elle soit bien. Et le reste, franchement, alors là, si t'as des doléances, tu vas calmer tes ardeurs ailleurs, va pas faire chier. Moi, je fais jamais chier. Moi, si vous trouvez un mec qui dit « je fais chier sur un plateau »,
je vais noter tout de suite. Qu'est-ce qui se passe si on trouve un mec qui fait chier? Qui dit que vous faites chier? On gagne quelque chose?
Non. Mais j'ai dû faire chier en plus. J'ai dû faire chier, mais par enthousiasme. Pas pour rentrer. Parfois, les metteurs en scène peuvent penser ça. Souvent, des jeunes metteurs en scène, ils pensent, et c'est normal, ils sont fragiles, c'est leur premier film, et t'arrives, il y a un tout petit truc qui te devance. C'est ou ta notoriété ou ton expérience.
Bien sûr.
Tu la déballes pas, tu viens pas avec des médailles, tu dis juste tiens, j'ai le sentiment, peut-être que ça, regarde, on pourrait en essayer une, etc. Viens, c'est un atelier. Viens, on fait comme si ce plateau était un atelier. Tu me laisses la place aussi ou pas? Mais certainement pas prendre le pouvoir, parce que je sais que c'est fragile, tout ça. Donc faut, parfois, tu confonds enthousiasme et. Et t'es un peu pushy et. Mais c'est, dans mon cas, je sais que c'est que d'enthousiasme.
Mais vous savez que maintenant, quand vous arrivez sur un plateau, en fait, évidemment, vous précèdent les films que vous avez fait avant, les rôles que vous avez tenus. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui vous encombre dans le fond, que le réalisateur, si c'est une jeune réalisatrice...
Non, parce que tu le... En, allez, une journée, c'est fini. C'est, tout ça se délite très rapidement. On arrête les Salam Alek. C'était ça, j'avais ça juste après les Oscars. Je suis revenu, j'ai fait un film qui s'appelait Mobius. Et j'avais un assistant qui est arrivé. Bonjour monsieur. Mais alors, il suait du sang. Bonjour monsieur. Votre loge est là, la voiture est là. Je dis non, mais toi, c'est pas possible. J'ai eu peur, j'ai eu mal pour lui, j'étais mal, j'ai envie de m'excuser sans arrêt. C'était horrible, c'était con. Con parce que, en fait, il y a un truc que je déteste le plus dans ce métier, c'est le milieu. Voilà, c'est les snobs. La bien-pensance, le milieu, le snobisme m'emmerde absolument. Je ne suis pas là-dedans, je ne me prends pas pour un autre. Je sais d'où je viens et je sais qui j'étais, je sais ce que je peux faire encore. Je sais que je vais me planter, je sais que j'ai pas toujours été bon, enfin voilà, tout ça normalement toute l'équipe le sait. Si y a eu une mauvaise information, si quelqu'un te voit comme un autre, il y a eu une mauvaise information, c'est-à-dire qu'il y a eu une connerie de la production en disant attention parce qu'il va arriver, attention c'est machin.
Mais au-delà de la notoriété ou des prix, le fait qu'on vous demande parfois de refaire des choses, on dit tiens, il le fait très très bien, il fait ça très très bien, et donc vous vous rendez compte des fois, vous dites ah, on essaie de me remettre dans cet endroit, on essaie de me faire copier quelque chose que j'ai déjà fait. Ça vous arrive ?
Oui, c'est arrivé, mais pareil, très rapidement, je décline.
Et vous, vous rendez compte des fois que vous dites « Ah merde, ça c'est un automatisme, il faut que je fasse gaffe à ça, je suis en train de reproduire quelque chose qui est de l'ordre. »
Oui, on aimerait avoir plusieurs têtes en fait, au fond, vraiment. On a toujours la même. Hein.
Ouais.
Malheureusement, on a toujours la même voix, on a le même nez. Non, on peut les trouver d'ailleurs dans des variations. On cherche ce fameux lâcher prise génial qui fait qu'à un moment, on a... un autre débit, on a été insolent dans un temps qu'on n'avait pas l'habitude de donner. C'est ce que je cherche aussi. Et parfois, ce côté un peu scolaire m'empêche. Par exemple, sur le Dain, j'ai été totalement décontracté. J'ai fait comme s'il n'y avait pas de caméra, en fait, quoi. Comme si ce film sortirait jamais, ce qui est la meilleure des choses, parce que c'est là où tu peux être insolent dans ta proposition.
Alors justement, on va laisser le Dain vous poser une question, puisque quelqu'un est venu en Dain, mais aussi parce que c'est une question liée au choix entre le projet ou le film ou le réalisateur. Je vous laisse poser votre question, Jay.
C'est bon, ok. Non, j'avais une petite question, en fait.
Vas-y, Georges.
Voilà. Merci. Vous avez tourné avec beaucoup de réalisateurs, on va dire, en la France, aux États-Unis, en France et aux États-Unis, aussi en même temps, avec des artistes, et je me demandais, quand vous... choisissez un projet, en fait, est-ce que vous êtes plus attiré par le projet, le concept lui-même, ou est-ce que c'est le réalisateur, la personne elle-même, ou un mélange des deux?
C'est sûrement un mélange des deux, au fond, mais j'ai tendance à dire que c'est d'abord le projet, c'est pas tellement le metteur en scène. C'est toujours mieux, en fait. En avançant, tu dis c'est quand même mieux d'avoir un metteur en scène, c'est quand même mieux d'avoir un mec qui a une vision. C'est bien, hein. C'est pas pour rien qu'il y a des mecs qui s'appellent Blier, qui ont inventé des choses, c'est pas pour rien tout ça. Donc, quand même, mais c'est bizarrement, c'est pas de temps là que ça se passe. C'est ce que ça va susciter en moi. Je vais le lire vraiment avec une grande distance, ou alors je vais plonger immédiatement et je vais même presque pouvoir jouer les premières phrases. Ou là, tu dis, hein, ça sent vraiment bon là, il se passe quelque chose. Tiens, je l'ai pas vu. Tiens, c'est singulier. Tiens, tu l'as pas fait. J'ai envie de le voir ce film. Et pour le voir, je vais le faire.
Et des fois, ça peut être aussi uniquement le personnage, de vous dire, le scénario est bon, il est comme il est, le réalisateur... Par contre, le personnage n'a jamais joué ça, et ça m'intéresse.
Il y a des films à personnage et des films à histoire, clairement. Enfin, moi, c'est vraiment, pour le coup, quand j'ai OSS, je sais que je dois tenir le bateau.
Oui.
Et donc, et en plus, par exemple, dans le troisième, je dois le réinventer, je dois inventer d'autres choses, je dois fragiliser d'autres choses. Donc ça, c'est mon petit boulot aussi. Alors, évidemment, en parlant avec Nico Bedos, avec le metteur en scène, il y a des personnages pour ça, enfin des films pour ça, et puis sinon, typiquement, Novembre, ou même tiens, J'accuse, par exemple, l'histoire est trop grande,
ouais.
Elle prend trop de place, donc celle-là, on l'accompagne. Donc mon personnage doit un peu disparaître.
Mais J'accuse, c'est un film où on prépare, par exemple.
J'accuse, c'est un film où on prépare.
Bon. Et vous préparez comment, vous? Par exemple, pour un film comme J'accuse, qui est un personnage historique, avec un réalisateur qui a une façon de faire jouer...
On lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de reportages documentaires, on parle, une fois de plus, on reste aussi sur le scénario, énormément... on va chercher des influences dans son esprit, dans ce qu'on a déjà traversé, dans ma famille, même. Mon père, d'ailleurs, était quelqu'un de... J'ai presque la moustache de mon père dans les années 70. Mon père a ça, c'est un mec qui vient du bâtiment, il y a quelque chose de
ça, très... Ça, c'est conscient ? Vous vous rendez compte quand vous le faites ?
Non, en fait, je me rends compte, je passe un peu, je m'en sers un peu, quoi. Je parle de mon père, mais ma mère aussi, parce qu'ils sont assez indissociables, mais il y a une espèce de structure familiale comme ça qui fait que, je dis, tiens, ça ressemble à quelque chose d'assez droit, d'assez honnête, d'assez...
Mais dans le travail, vous vous rendez compte quand vous lisez le rôle, ou c'est quand vous commencez à le travailler que vous dites si je dois commencer à le composer, ou quand vous lisez, vous dites ah, il y a quelque chose qui m'est proche.
Non, ça vient vraiment petit à petit. C'est d'abord on lit ça comme une grande œuvre, comme une grosse œuvre, voilà, comme une énorme promesse. Et qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à ça ? Mmh. Et après, on se rend compte effectivement, tu dis ah oui, quand même, il y a quand même 74 jours. Donc en fait, tu es là tous les jours. Mmh. Donc en fait, tu es le lien en fait entre toutes ces séquences, ouais. Entre tous ces personnages, avec Vincent qui faisait mon avocat. On a pas mal de... C'est des responsabilités, quoi. Mais alors, c'est pareil, il ne faut pas trop les voir, parce que sinon, tu ne te lèves pas du lit. Enfin, tu dis, je ne peux pas, j'ai honte.
Et par exemple, pour un réalisateur comme Roman Polanski, où je peux remarquer dans les films... Il y a une façon de jouer chez lui. Il y a une façon... Mais je ne sais pas si ça se voit sur le plateau quand on travaille avec lui. Dans les films, je vois bien qu'il y a une façon de faire jouer les acteurs ou les actrices où on reconnaît quelque chose qui est de l'ordre de sa patte et de sa direction. Est-ce que vous avez l'impression qu'on le sent sur le plateau ou pas du tout ? Que c'est...
Il y a une ambiance assez glaciale. Hein.
Ouais.
Le film l'est aussi. Mm-hmm. C'est aussi ce qu'il impose. Enfin, il y a quelque chose de très, très polonais là-dedans. Mm-hmm. Mais c'est, mais parce que c'est sérieux. En fait, c'est sérieux. C'est ce qu'il disait. Il dit, c'est très sérieux. C'est vrai que c'est sérieux. Ce thème était sérieux. Mm-hmm. C'est un film sérieux. Hein. C'est une histoire qu'on se trimballe encore en France depuis 100 ans, quoi.
Après, il y a des réalisateurs qui pourraient vous dire l'inverse. C'est parce que c'est très sérieux qu'il faut qu'on ne prenne pas sur le plateau les choses très...
Oui, mais ça arrive aussi, mais pas là. Là, non. Là, je suis un militaire. Je dois être droit. Je dois être sans faille.
Et vous arrivez à ressortir, à ressortir le soir de ça, ou vous, ça
je ne m'en rends pas compte. Ça, ouais. C'est les gens qui vivent avec moi.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent, alors ?
Lâche un peu Picard, là. Vas-y, ouais. C'est bon. T'es un peu raide. Tu manges raide, mais je m'en rends pas compte, mais je mange un peu raide. J'avais perdu 7 kilos, j'étais un peu... Il y a des haricots.
Et vous, le danger sur ce film-là, par exemple, pour vous, le danger personnel sur le film en tant qu'acteur, moi, je peux imaginer lequel c'est que vous avez, mais c'est une projection, je me dis, vous avez un capital important, vous savez faire quelque chose qui est difficile à faire, qui est la comédie.
Oui.
Vous êtes extrêmement bon dedans, vous avez une habilité, une capacité à faire fonctionner votre corps pour la comédie française, qui est assez rare. Là, on vous en prive complètement.
Oui.
Vous êtes privé complètement de ça. Est-ce qu'avant de partir, vous vous dites, aïe, 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 je ne vais pas pouvoir sortir une des
choses... Non, parce que ça, c'est votre image à vous.
Ouais.
C'est l'image que vous avez de moi. Moi, je n'ai pas cette image-là. Moi, en moi, je sais que je n'ai pas cette image-là. Quand je vous parlais de zones d'ombre, j'en ai plein des zones d'ombre. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas tout le temps en train de déconner. Hein. Là, je suis aussi peut-être en... C'est une certaine façade, parce qu'il y a un moyen de défense aussi, parce que c'est très impressionnant. Mais j'ai des doutes, je flippe,
oui,
j'ai des peurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je m'en sers aussi au cinéma.
Bien sûr.
Ce que je dois contrôler, maîtriser, c'est des choses que je ne maîtrise pas. Mes sourcils, des fois, je ne les maîtrise pas beaucoup. Mm-hmm. Il y a des trucs, je dis, ah, attention, attention. Et parfois, je demande même au chef opérateur, j'ai on est à combien, c'est quelle focale, parce que évidemment quand tu es au 100, tu vas pas jouer de la même manière qu'au 40, au 50, donc ton jeu tu vas l'adapter selon le plan. Il suffit que tu fasses ça au 100, tu fais bah, tu dis hop là, t'es passé dans la comédie. Sur un film droit et sérieux comme J'accuse, c'est compliqué. Donc j'éteins tout et je pense que ressentir et penser ne serait-ce qu'à l'émotion, penser à la séquence suffit largement pour que ça se voit.
Je reformule un peu.
Il faut connaître son outil, en fait, je pense.
Il y a ce que vous êtes, ça, il n'y a que vous qui le savez.
Oui.
Et puis après, il y a ce que j'attends quand je vais voir vous voir.
Ah oui, non, mais ça...
Alors, vous savez...
Mais il y en a que je ne pourrais jamais convertir à ça. Il y en a qui vont dire, de toute façon, je ne peux pas, je vais avoir du fou rire à chaque fois que je vais voir Dujardin pour un truc. Je ne pourrais pas les avoir, ça ne sert à rien. C'est comme te faire aimer sur Internet. Ce n'est pas possible.
Ouais.
C'est pas possible. Ou sur Twitter, ce n'est pas possible. Donc, il faut oublier cette idée-là. En revanche, tu peux avoir la foi, tu peux avoir l'envie de progresser, ce qui est mon cas, j'ai envie d'apprendre. En fait, moi, j'ai vraiment une soif d'apprendre. Il y a des mecs qui te font... Il y a des scénarios qui m'amènent qui m'amènent une culture que je n'avais pas, qui m'amènent du plaisir, qui m'amènent tout ça. Il y a des directeurs d'acteurs qui sont formidables pour ça.
Mais vous ne pensez pas qu'à un moment donné, ça disparaîtra quand même cette chose de ce qu'on attend de vous ? Il y a des acteurs comme Michel Serrault, on a fini quand même à la fin par se dire on ne va pas avoir un film avec Michel Serrault, on va forcément se tordre de rire. Et vous, quand même, c'est en train de se passer. Moi, je ne vous imagine pas que dans la comédie.
Non, mais parce que mon visage change, je vais avoir 50 ans, il va falloir que je réinvente aussi mes personnages. Je ne vais pas prendre les mêmes choses. Par exemple, j'étais moins sûr à l'époque de Contre-enquête, par exemple. C'est des personnages qui me faisaient un peu peur. Maintenant, des personnages comme ce que je vais faire dans novembre, le mois prochain, ou Picard dans J'accuse, ou même La French avec le juge Michel, je les assume complètement. Je les comprends, je les assume, je les aime, je les entends, j'ai envie de... C'est aussi une partie de moi, quoi. Mais... Je sais que c'est un truc qui est compliqué en France. Enfin, je veux dire, on te demande de choisir. J'ai jamais voulu choisir. Finalement, tu regardes la filmo, j'ai fait, juste après Un gars, une fille, j'ai fait Le Convoyeur. Mm-hmm. Très rapidement, j'ai fait des films, même Contre-enquête, c'est venu assez rapidement. Donc, j'ai fait des films très sérieux, très vite, parce que je ne voulais certainement pas qu'on m'enferme. Quand je fais The Artist, je pète le truc et je vais faire Brice, et puis je vais faire un autre truc. Et ça me... J'aime bien ce grand écart-là.
C'était déjà la conscience de se dire il y a une carrière à construire, il ne faut pas qu'elle se bloque.
Ne pas m'enfermer, ouais. En fait. J'avais très peur du truc. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai écrit Brice, le premier Brice, parce que je sentais qu'après Un gars, une fille, j'allais être un espèce d'acteur de 30 ans, qu'on allait se refiler là, puis tu allais faire un rôle là, etc. Et que la carrière, c'est des carrières qui sont, on va dire, ça va durer 5 ans, 4 ans, 5e rôle, 4e rôle, 3e rôle, etc. Ça va être chiant, on va s'ennuyer, je vais m'ennuyer, je ne peux pas m'ennuyer. Mm-hmm. Je ne veux pas m'ennuyer, je ne veux pas attendre. Bon, je ne veux pas attendre, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire un truc qui s'appelle Brice de Nice. Si ça ne marche pas, c'est gênant. Hein. C'est vraiment gênant. Donc j'écris ce truc-là, mais il y a un fond pour moi dans Brice. Je me dis, tiens, c'est un personnage qui attend une vague à Nice, etc. Je vais aux archives de Nice. Je vois dans les archives Tsunami dans la baie des Anges. Oh, génial, le mec attend sa vague. En plus, ça a existé, c'est super, boum, boum, boum. Et puis ça se met en place, je rencontre James, le film se fait, se prend, et puis prend, quoi. Mais c'est un accélérateur de carrière énorme. Parce que tu fais 4,5 millions dans l'année. Alors évidemment, les mecs, ils disent, qu'est-ce que c'est que cet abruti qui arrive avec ce film? Tu vois, qu'est-ce qu'il a commis? C'était une merde à l'époque de Brice, hein, faut le savoir, hein, dans le, je sais pas, dans l'intelligentsia, pas dans le public, hein, mais le et à moi derrière de.
On remarque assez vite, il y a quand même quelques papiers très vite où on remarque qu'il y a un petit peu plus qu'une comédie potache. Les gens, je suis d'accord avec vous sur le fait de dire c'est une comédie populaire, mais quand même il y a déjà à l'époque on se dit tiens c'est un personnage un peu surréaliste.
En tout cas c'est un truc curieux.
Oui.
Ouais, et puis le problème c'est que ça a du succès. Et tu sais bien que si quand ça a du succès, c'est pas bon. Mmh. Brice fait 700 000, j'ai moins de problèmes. Mmh. Il fait 4,5 millions. Donc je défonce la porte. Mmh. Donc derrière, je peux dire qu'on t'attend comme ça. Hein. Mmh. On t'attend lourd. Et là, on propose OSS 117. Mmh. Ils s'attendent à avoir un agent secret à la Brice de Nice. C'est pas du tout la même écriture. Mmh. C'est carrément autre chose. Tant mieux. Super. Mmh. Tu tiens. Et puis t'alternes avec des trucs comme ça, fait 99 francs, qui grince un peu plus. Mmh. Écriture de Beck BD, réalisation de Yann Kounen. Tu dis. Chouette, j'aime bien l'angle que ça prend parce que même moi, je me perds un peu là-dedans et c'était un peu ça que je voulais, finalement. Et c'est un peu ça que je garde finalement. Mon cap, c'est encore un peu ça.
Mais vous dites à la fois, vous avez dit plein de fois, il faut tenir, construire, être encore là. Et puis vous m'avez dit aussi, il n'y a pas que le cinéma dans la vie.
Oui, mais justement, c'est parce qu'il faut que j'arrive à il y a des espaces qui s'appellent le cinéma, il faut que je les fasse bien, comme il faut. Pour moi, c'est sérieux un film. Je ne le fais pas. Sur je ne sais pas combien de films j'ai pu faire, mais je crois que je n'ai jamais cachetonné. J'ai jamais cachetonné. Je me suis jamais dit, celui-là, je vais le faire pour le fric, quand même. On sait jamais. J'ai toujours eu la foi sur quel jour. Je me suis planté, des fois, mais je me suis toujours dit, je le fais pour plein de raisons. Des choses plus intimes, mais je le fais. Donc, c'est une cérémonie, un film. Là, je suis déjà dans le prochain. Je sais que c'était un moment très important. Je vais m'en sortir. Je vais vite m'en sortir. Je vais revivre. Je vais faire d'autres choses. Je vais m'aérer, je vais voir des vrais gens, des vrais humains, qui vont forcément nourrir aussi les humains que je vais faire dans des films. Et c'est pour ça que c'est, à mon avis, très important. Si tu commences à ne voir que des archétypes, que des gens de cinéma, vous allez tous écrire les mêmes personnages. On va tous s'emmerder très très fort. Donc forcément aller voir, ou dans vos familles, ou chez vos amis, des gens étranges, intéressants.
C'est comme des campagnes de guerre. Vous avez parlé d'armée. On irait sur un tournage, puis entre deux, ce serait le repos du soldat, et on partirait sur un film.
Ouais, je suis en perme, c'est ça. Là, je suis en perme, tu vois, en Suisse, c'est super. Je suis très content d'être là.
Et c'est agréable d'être en perme, où on est content parce qu'on sait qu'il y a un film à venir. Mais s'il n'y avait pas de film à venir.
Mais tu sais, c'est ça quand même le vrai luxe. Hein. On va te dire, c'est quoi le luxe? C'est un Oscar, machin. Non, le vrai luxe, c'est de pouvoir choisir, décider, dire non. C'est dire non énormément. Moi, j'ai dit énormément non dans ma carrière. Beaucoup, beaucoup. Les non pour avoir des vrais oui.
Et on vous a dit non, si vous, maintenant encore, on vous dit encore non, on vous dit plus non. Il y a des réalisateurs américains qui vous disent non, pas lui. Ou des gens que vous cherchez.
Ah ben non, mais moi, je ne drague pas des metteurs en scène américains. Je ne vais jamais draguer un metteur en scène.
Ou européen.
Mais même européen. je vais jamais voir un... Le seul que j'ai dragué, si c'est Claude Lelouch.
Ouais.
Le seul, je suis allé le voir à Cannes. Et je suis allé voir, je lui ai dit, j'adorerais tourner avec vous. Je sais pas quoi. Si, le départ. Je vais être dans le départ avec vous. Pour moi, Claude, c'était le départ. Comme si je devais aller... J'avais été voir Rapneau et je lui ai dit, je voudrais travailler avec vous dans le mouvement. Mmh. Je vais être dans le mouvement. J'aime le mouvement de Rapneau. J'en vis, Vincent, d'avoir vécu ça, en plus, justement, Cyrano, etc. C'est quand même formidable, le Rapneau. Mmh. C'est un mec qui a fait très peu de films, 8 films. C'est pareil, c'est... mais sinon, je le fais pas. Non. Je peux pas taper à la porte. T'as pas du dentifrice ?
Mais ça peut être aussi un vrai... Il y a beaucoup de comédiens ou de comédiennes qui vous disent « Mais c'est un vrai moteur. Vous voulez une bouteille d'eau, évidemment. Vous ne pouvez pas laisser. Allez-y. » Non, il y a beaucoup de comédiens ou de comédiennes pour qui c'est un moteur de se dire « Je voudrais vraiment tourner avec cette personne. »
Ah oui, beaucoup.
Et pas vous du tout.
Non.
Il y a aucun réalisateur ou réalisatrice avec qui vous dit « Je donnerais tout pour tourner avec. »
Non. Mais tu mens. Mais non.
Je vous demanderai pas de nom, je vous assure. Hein, je vous dirai pas. Alors allez-y, dites-nous qui.
Non, il y a des metteurs en scène que j'aime bien. Non, j'ai des désirs. Par exemple, tourner avec Alain Chabat, j'aimerais bien. Mm-hmm. J'aime les comédies de Salvadori.
Vous n'allez pas les leur dire.
Rencontrer Audiard, mais j'irai pas. Je sais pas le faire. On a besoin d'être un peu désiré. Si tu m'aimes pas, c'est pas moi qui vais te dire je t'aime. Je sais pas le faire. J'irai faire autre chose. Va faire des crêpes. Va dormir. Allez, va dormir.
Zoé a une question pour vous.
Bonjour. Du coup, moi, je me demandais si votre rapport à l'humour a-t-il toujours été autant bienveillant que ce qui paraît à l'écran ? Si ma question est claire.
C'est-à-dire, tu peux développer un peu ?
C'est-à-dire, quel est votre rapport à l'humour de manière générale dans la vie ? Parce que, par exemple, Louis de Funès, on m'a souvent dit que c'était pas quelqu'un qui rigolait autant que dans ses films, entre guillemets. Et je voulais savoir si c'est... Enfin, voilà, comment était votre rapport.
Oui, c'est possible que ça soit un truc un peu sérieux, des fois. Il y a un truc qui est très sérieux. J'aime pas tellement parler sérieusement, parce que ça fait... Mais c'est vrai que c'est le timing, en fait. C'est le timing... t'as pas envie de te faire de devenir un prof de cinéma, quoi. Mais s'il n'y a pas le timing...
Oh, mais regardez, avec un mépris, alors là, pour que vous ne vous assurez pas devenir ça...
C'est pour ça que je te dis ça.
Oui, j'ai compris, c'est bon.
C'est pour ça que je te le dis. Non, c'est que... Non, mais c'est que c'est un acteur ne peut pas se prendre pour un prof de cinéma. C'est insupportable. Enfin, j'aime pas expliquer ça. Des fois, on nous demande d'expliquer. Des fois, on n'a pas les réponses forcément à tout. Mais je sais que sur la comédie, je suis un peu un psycho sur le timing. Sur OSS, typiquement, c'est les temps qui les temps avant la vanne sont aussi importants, si ce n'est plus. On le voit chez De Funès dans son sens du rythme, on le voit dans Peter Sellers dans son agonie, dans les agonies de ses visages. Donc ça peut être, en fait, c'est pareil, ça, c'est une espèce de musique que je blinde énormément aussi avant, que j'ai besoin de blinder avec des acteurs avec qui je joue. Ou pas, parce que, par exemple, Pierre Ninet, qui est une Ferrari aussi, Pierre joue d'instinct, comme ça, il n'y a pas de question. Donc, on n'a pas besoin de répéter.
Mais expliquez un peu, parce que c'est différent de la vitesse. C'est différent de la vitesse, ce que vous dites, le tempo. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous, en fait ? C'est toujours assez mystérieux quand on a surtout des acteurs de comédie qui nous expliquent ça.
La vitesse ? En
fait, non, justement, ce que vous appelez le rythme...
Quand vous lisez le scénario, vous dites, elle est drôle à ce rythme-là. Elle ne peut être que drôle qu'à ce rythme-là. Ou des fois, il y a un verbe en trop. Tu dis, il y a trois verbes dans ta phrase. Je ne peux pas dire ça. Tu vois bien qu'on est emmerdé avec cette phrase. On ne peut pas la dire. Si on ne peut pas la dire, elle n'a pas de rythme. Si elle n'a pas de rythme, elle n'est pas drôle. Enfin, je pense. Quoi. C'est vraiment viscéral. On le sent immédiatement. Donc c'est ça. On corrige ce genre de choses.
Il y a toujours l'inconnu quand même de se dire quel partenaire on aura en face. Est-ce qu'il comprendra ce rythme ? Comment est-ce qu'on va être synchrone ?
Ça, c'est-à-dire qu'on vous en parle un peu plus. Alors, c'est-à-dire que là... Quand on se dit, quand on établit le plan d'attaque en se disant, tiens, ça sera un tel dans tel rôle, machin, on dit, ouais, très bonne idée, très bon, c'est très bon, ça, on sait que c'est blindé, il n'y aura pas trop de soucis.
Mais alors, on se bat contre qui ? Vous dites plan d'attaque, la guerre, l'armée, sur un film, on se bat contre qui ?
La promesse, contre la promesse, parce que c'est prétentieux de dire à des gens, venez voir ma comédie le 4 août.
Ouais.
Venez rire. Ah ouais ? Donc tu vas me faire rire. Ouais. Ah ouais. Ok. Donc moi je me dis, si ça me fait rire, je peux espérer faire rire 10 personnes. Si 10 se marrent, peut-être 100. 100, 1000, ça peut marcher. Mais j'ai toujours dit un truc comme ça. Si ça me fait pas marrer, si ça coince, et en même temps, il peut y avoir des surprises. Le Dain, c'est différent. Le Dain, c'est vraiment... Waouh.
Mais il y a des choses que vous avez jouées en vous disant, alors ça m'étonne beaucoup que ça fasse rire, et vous l'écoutez en salle, et vous dites, c'est incroyable comme cette vanne ou ce moment fonctionne.
Oui, oui, non, mais même c'est arrivé de me dire, enfin, il y a des trucs qui me faisaient beaucoup rire, puis qu'on n'a pas fait marrer du tout. Hein, ouais. C'est pareil, ça c'est pareil, c'est très, très subjectif, on le sait, c'est très intime, une fois de plus. Il y a des rires, moi, dans Brice, qui sont gênants aussi. Je fais des trucs très bizarres, inutiles, mais qui me font rire. Il y a des choses en OSS, tu vois, ça, quand je fais ça avec le faisant, là, je sais pas quoi. Mm-hmm. Pendant qu'on te parle. Mm-hmm. Tu vois, c'est comme si tu me parlais, je faisais ça.
Ouais, ouais. Tu vois ? Ça a l'air de marcher.
Ah bah c'est bizarre.
Ouais. Cela dit, il y a une conscience.
C'est une bizarrerie, donc c'est incongru, donc ça déclenche à quelque chose.
Ouais.
Et ça, alors vraiment, ça me plaît beaucoup.
Mais là, vous avez complètement géré le moment parce que vous étiez, c'est un plan large, on nous voit tous, et c'est vous qui avez décidé du tempo.
Oui.
Au film, vous ne savez pas comment ça va être monté ni découpé.
Ça peut être un problème. Ça peut être une trahison même.
Ouais.
Effectivement, ça peut être une trahison parce qu'un metteur en scène peut penser évidemment à son art en se disant wow, « Waouh, qu'est-ce que c'est beau, t'as vu, regarde, j'enchaîne les plans, etc. Ouais. » Mais c'est beau, mais c'est pas drôle.
Ouais.
C'est-à-dire que tu perds la comédie. Tu vois bien que ce qui plaît là, c'est vraiment… Alors dans les OSS, typiquement, c'est de l'agonie puisque ce mec dit que des conneries. Donc s'il n'y a pas derrière un temps de réaction, il comprend ce qu'il dit là ou… Mm-hmm. Tu vois, s'il n'y a pas cette gêne… Ça fait pas marrer. Et là, pour le coup, c'est très dangereux. C'est des vannes brûlantes. Faut faire attention avec ce genre de truc. Donc, ça peut être une trahison. Donc, t'as tendance à. Toi, tu peux. Tu mets forcément un petit œil dans le montage.
Alors, Louis de Funès, il supportait pas ça. Hein. Il trouvait vraiment que les gens.
Ah, mais il voulait plus bosser. Il voulait plus entendre plus personne à la fin, oui.
Oui, parce qu'il trouvait que les gens ne comprenaient pas, filmaient mal. Et il s'arrangeait souvent, d'ailleurs, pour foirer une prise qu'il trouvait pas juste dans le cadre, pour se dire comme ça, on gardera l'autre. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous enrage ou ça, vous disait, oulala, mais ils comprennent pas le. Moi, j'ai mon tempo et le tempo de cette comédie-là n'a pas l'air d'être compris.
Ça m'est arrivé, c'est très gênant, c'est très chiant parce que tu deviens très con. Tu commences à prendre le lead une fois de plus. Tu fais le prof d'humour. T'es là, t'as dit, ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu dis, ce qui est chiant, c'est que ça ne fonctionne pas avec lui, quoi. Et tu dis, pourquoi on ne se comprend pas avec ce metteur en scène-là ?
Mais comment on peut rectifier, soit dans le travail, on arrive ou pas ? On se dit, il faut que je passe par autre chose, alors pour... Ou c'est pas possible, en fait ?
Bah, des fois, tu abdiques, et puis tu dis, ça sera où sauvé au montage ? Ou peut-être que finalement, ce n'est peut-être pas une bonne vanne, donc ça ne sert à rien de rester dessus trop longtemps. Ou alors, je me plante, et ça se trouve, elle est très drôle. Et ce qui arrive aussi, effectivement, c'est que parfois, j'avais des... Je faisais ça avec mes potes, les nous, c'est nous. Souvent, j'étais un peu flic comme ça. Je disais, non, les gars, c'est pas assez drôle, c'est pas ça. Et en fait, c'était très drôle. C'était très drôle. C'est très drôle parce qu'il le faisait avec beaucoup de générosité. Ils n'ont pas douté comme moi.
D'accord.
Et je peux un peu trop douter.
Il y a des questions, je crois, des internautes. Alors, je ne sais pas où est la personne qui les relaie. C'est là, pardon, excusez-moi. Je vous en prie.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on a une question de Alessia qui vous dit « Brice de Nice a clairement marqué une génération. Tout le monde faisait des concours de casse dans la cour d'école. »
Je suis désolé.
Êtes-vous conscient de cette influence et qu'est-ce que ça vous a fait ?
Alors, ça fait plaisir. Après, une fois de plus, il y a ça, la casse, ce truc. Alors, moi, pour le coup, j'ai vraiment pas géré ça. Ça m'est tombé dessus. Moi, une fois de plus, j'étais sur ce petit surf tout seul, dans ma baie des Anges, à attendre. C'est ça qui m'amusait, presque plus. Donc, j'ai été surpris. J'ai eu un espèce de moment un peu phénoménal dans les écoles, avec des Brices qui sont venus me voir en disant, bien, je le vis pas très bien, là. Mais ça fait plaisir, écoute, forcément ça fait plaisir de... Je le vois avec beaucoup d'ailleurs de tendresse maintenant, parce que ça me paraît assez tellement loin.
Vous êtes enfin devenu la star des cours de récréation, vous n'étiez pas quand vous étiez enfant.
Peut-être.
Vengeance.
Pas mal. Non mais Brice a toujours été un... C'est ma patte de lapin quoi, un des premiers personnages que j'ai écrit, que j'ai fait au Café Théâtre. Donc, j'ai joué dans les bars, dans les cafés théâtres, à la télé, au cinéma, il m'a toujours suivi. C'est toujours la même petite dent, là, qui n'est pas une dent, hein, évidemment, c'est une petite corne de chèvre que j'ai volée dans une boutique d'antiquité à Versailles, tu vois, je m'en souviens bien. Je ne voulais pas acheter ce truc, c'était moins de mon con que je n'avais pas acheté ça. Donc, je l'ai mis dans la poche, là, j'ai une petite corne de chèvre.
Donc sur Internet.
Voilà, donc en fait, voilà.
Quel était le nom de la boutique à Versailles ?
Je ne sais pas. c'est une petite corne parce qu'en fait une dent de requin c'est nul, on la voit pas, c'est grand comme ça quoi. Donc il me fallait un truc un peu plus grand. Puis pour un mytho c'était très bien, c'est une vraie dent de requin blanc faite en résine. Pas du tout, c'est une corne de chèvre. Et le t-shirt c'est un t-shirt jaune à l'époque de ma femme. La perruque c'était un truc qui traînait. C'est un truc qui s'est fait comme ça. Et puis j'ai pris un dictionnaire des synonymes. Et puis je voulais pas qu'il dise salut ça va. Alors j'ai dit fart, oh, fart, salut ça fart, 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 fart. Et puis j'ai trouvé son lexique. Et puis tout venait quoi. J'ai dit, oh, et puis ça s'arrête jamais. Et puis tu vois bien que le sketch il marche. Et puis ça prend. Et puis on peut l'aimer. C'est un peu mon fils honteux en fait, Brisonis. Je vois bien que j'ai deux enfants. Il y a OSS qu'on aime bien et que c'est très classe d'aimer OSS et que tu prends pas beaucoup de risques en disant que t'aimes OSS a priori. Et quand tu dis que t'aimes OSS, c'est un peu Dirty Dancing quoi. J'adore Dirty Dancing, hein. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est le film honteux. Mais si t'as assez d'enfance, si tu t'amuses à dire « Eh ben après tout, moi ça me fait du bien, j'ai pas de problème », tu vas y trouver plein de choses. Moi j'ai même Nicole Garcia qui m'avait dit, avant de faire un balcon sur la mer, elle me dit « J'ai vu dans Brise de Nice tes zones d'ombre, ça m'intéresse. » Ah, j'ai dit « Putain, elle est balèze. Putain, elle est balèze. Elle est balèze ? Eh ben en fait, elle a raison. Il y en
oui.
avait. »
Pourquoi ouais, ça vous surprend ?
Il y a beaucoup, beaucoup d'enfance et beaucoup, beaucoup de moi dans Brise de Nice. Il y a beaucoup de têtes de mecs qui ne comprennent rien en cours. Qui ne comprennent rien. Mm-hmm. Vraiment, c'est ça. Souris, souris pas, comprends pas. Comprends pas ? T'es là ? Débile ? Débile, débile. C'est le cousinage qu'il a avec OSS. Ben c'est des cousins.
Mais ça vous surprend parce que dans les personnages de comédie, c'est là où on voit le plus les acteurs. C'est là où on voit plus ce qu'ils sont.
Ah ben oui, en voulant planquer, oui, c'est là qu'on voit le plus.
On voit vraiment
je suis d'accord, ouais, complètement.
Mais par contre, juste sur OSS 117, par exemple, quand les premiers ont été faits maintenant, en fait, ce personnage qui était tellement décalé, ça nous faisait rire. En fait, les premiers films nous faisaient rire parce qu'on était dans un humour qui était décalé. On avait du plaisir en fait, à rire sur des choses qui étaient politiquement incorrectes. Là, quand même, l'époque est de plus en plus sérieuse, de moins en moins prête à se détendre. Est-ce que ça change quand on prépare OSS le troisième épisode de se dire...
Ah bah ouais. C'est-à-dire... Ah bah là, c'est les pieds dans le tapis, là, c'est les doigts dans la prise, quoi.
Mais il se permet toujours tout. On se dit, non, il y a quand même des trucs maintenant, on va pas s'emmerder à faire
non,
ça.
Non, non, ça dépend comment c'est fait, mais c'est assez... Au fond, OSS 117 est assez politiquement correct. On dit politiquement correct, mais il est assez politiquement correct parce qu'on sait exactement de qui on rit,
oui.
De quoi on rit, de lui. Lui, c'est même pas un raciste, haineux, etc. C'est un con. C'est un con qui enfile les clichés sur les Juifs, sur les Arabes, sur les Noirs. Si on veut taper sur OSS, c'est pas très original, c'est pas très malin, et ça dira plus de trucs de choses sur toi que sur le film. Le film est très clair, donc... Mais c'est vrai que c'est une époque où on a tendance à se dire, faut pas trop y aller, faut pas trop secouer. Écoute, on verra bien...
Moi, j'aurais pas dit qu'il était con, alors, c'est drôle. Je pense que c'est le genre de personnage qui s'est, il est passé dans un couloir temporel.
Non.
Voilà un personnage qui vient d'autre part.
Je m'amuse à penser à voir OSS 117 petit,
ouais.
Jeune, avec sa mère, qui lui dit « Tais-toi ! »
Oui, oui, oui.
« Tais-toi !
Ouais, » ouais.
Tais-toi ! Tais-toi ! Arrête de dire n'importe quoi tout le temps. Arrête ouais. Tais-toi ouais. !» Mais c'est ça, OSS.
Non, surtout qu'on a l'impression que tout est cohérent dans sa tête, c'est-à-dire qu'il y a un système de valeurs
ouais.
Qu'il s'est juste pas rendu compte, c'est pas du tout l'époque ni le lieu.
Ouais.
C'est le mec qui s'est trompé de porte dans le couloir du temps. Quoi.
Ouais.
Il est arrivé à cet endroit, il dit, non, mais ça
mais qui est très doué.
Oui, 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 tout ouais. À fait. Il a des compétences, il est pas con du
tout. Il parle arabe, il peut parler machin,
ouais,
il, peut, oui, il lit les hiéroglyphes immédiatement.
Et puis surtout, il a ce truc.
Il
alors
piche qu'il... tout, tout se fait à son insu, l'histoire roule sans lui.
Il a pas de surmoi.
Le mec, il a une chatte, mais...
Il se voit pas, il a la chance
il
de pas se voir.
Il se voit pas, non, non, il est, c'est formidable.
C'est un vrai héros qui se voit pas,
ouais,
il se rend pas compte.
Ah oui, c'est la vie en mieux.
Une question encore des internautes.
Alors, une question de Daniel. Est-ce que vous sentez au fil des années une diminution de la tolérance vis-à-vis de l'humour au cinéma ?
Ah, ouais.
Et est-ce que vous adaptez votre jeu en fonction ?
Non, je ne pense pas. Pas envie.
Ok.
Pas envie et oui, on la sent, mais en même temps, c'est compliqué parce que ça dépend où, avec qui, comment. C'est-à-dire qu'un humoriste de France Inter a peut-être plus le droit que certains mecs. Non, il y a un truc qui a un tout petit peu disparu, c'est le courage, quoi, tout simplement. Le courage en politique, le courage en tout, quoi. C'est ce qui manque, c'est ce qu'on a envie de voir. Parce qu'on anticipe sur ce qui peut se passer, ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux. C'est quoi les réseaux sociaux ? J'en sais rien. C'est quoi cette minorité ? C'est quoi ? Elle vient... C'est qui ? C'est quoi ? C'est elle qui doit... Non, je ne sais pas qui c'est, donc je n'arrive pas à... à faire le point sur l'ennemi. Je sais qui je suis, a priori, tu n'es pas quelqu'un de malveillant, tu n'es pas un idiot, tu n'es pas là pour faire du mal, tu es là pour divertir. Il y a des choses qui évoluent. Ça ne doit pas vraiment évoluer, à mon avis. C'est compliqué, hein. C'est compliqué hein, comme débat.
Et ça donne pas envie justement de se réfugier dans les films, d'avoir que ces périodes en fait entre
les films. Je trouve qu'en fait c'est les films qui racontent le mieux quoi, en fait. Dès lors qu'on commente, tu vois déjà là, tu vois, je m'embourbe dans un truc. C'est très compliqué d'expliquer ce qui est drôle et pas drôle. C'est drôle. Tu vas me chercher de l'eau, tu te casses la gueule, ça d'un coup ça peut être drôle. Tu te casses une jambe, c'est moins drôle. Tu vois, alors je sais pas comment on peut.
Mais c'est aussi comme ça qu'on se préserve. Vous disiez en fait dans le fond de ne pas être dans le commentaire quand on est en dehors de son travail. Est-ce que pour un acteur, ce n'est pas aussi une façon de durer justement et de se préserver? Et peut-être que des gens que vous avez admirés, des comédiens que vous avez admirés, ont justement eu toujours ce petit décalage. On pouvait se dire, tiens, ils n'ont pas l'air d'être impliqués totalement dans la vie politique, sociétale, etc. Mais c'était une façon aussi de se préserver un petit peu pour pouvoir continuer à travailler.
Ça, je suis d'accord, oui. Je pense qu'il faut rester à sa place, oui. Ça, c'est sûr.
Mais on pourrait alors se dire, oui, mais votre place, c'est peut-être aussi, puisque vous avez la parole, de soutenir des causes, d'être militant. À l'inverse, on pourrait vous dire ça.
Ah, mais non. Non. Non, je ne vais pas faire. Non, les causes, je peux en soutenir des causes, mais je ne vais pas monter à toutes les barricades, défendre tout. Ça ne veut rien dire. Je suis un acteur. Je ne suis pas plus qu'un acteur. Je ne suis pas plus influent. Pourquoi un mec m'écouterait moi?
Regardez. Faites non, oui, mais. Parce que...
Moi, je peux donner une direction. Ce que je peux vous dire, moi, j'ai envie de me faire une belle vie. Ça, c'est un projet, tu vois. J'ai envie de me faire une belle vie. Comment je me fais une belle vie? Est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends ce qu'on doit me dire? Ou genre, je prends la main. Bon, j'ai pris la main. Ça a souri. Alors, on y met de la chance, on y met du travail, on y met du doute, on y met plein de choses. Ça, je peux l'envoyer. Ça, j'aime bien l'envoyer. C'est plutôt... Le reste...
Puis à quel moment vous avez l'impression que vous pourrez dire « ça y est, j'ai passé une étape, je sais que vous pouvez déjà venir maintenant, j'ai une belle vie et ça marche, et j'ai fait ce que je voulais faire » ou vous dites « il y a encore des vrais défis dans mon travail, je ne parle pas de votre vie personnelle, dans votre travail où vous dites « il y a des choses qu'il faut que je fasse, même si ce n'est pas des réalisatrices ou des réalisateurs en particulier ?»
Non, c'est un équilibre. Je cherche toujours cet équilibre-là, en fait. Je ne veux pas plus, hein. Je suis déjà riche, hein. Je veux pas être le plus riche. Quand je dis riche, riche de ma vie, de tout ce qu'elle m'offre. Ça me va. C'est Isabelle Nanty qui disait ça. Elle dit pourquoi les mecs veulent toujours plus? Pourquoi vous voulez toujours plus? C'est vrai qu'à un moment tu dis, alors c'est facile quand t'es bien, hein. C'est facile quand t'es, tu vois, quand t'as le bon matelas. Mais je comprends, tu peux comprendre parfois, même dans ce métier, de l'amertume. Du ressentiment, parce que t'es sur un palier, tu voudrais monter plus haut, tu sens que ça se grippe un peu, ça marche pas, pourquoi il me passe devant, et pourquoi si, pourquoi lui, et pourquoi moi,
C'est peut-être pas forcément plus, c'est des fois différemment. Vincent Pérez, qui était le premier des invités, qui est dans la salle, racontait quelque chose sur le fait de se dire, à un moment donné, dans sa carrière, il a eu envie de faire de la réalisation, ou de se mettre à écrire, ou de faire de la photographie, pour en fait regarder les choses en faisant comme ça, c'est-à-dire en essayant de tourner un peu autour.
Ce que fait Vincent, je trouve ça formidable. Je trouve qu'il gère ça admirablement bien. Vincent, il n'y a pas une once d'agressivité, d'aigreur, d'amertume. Il regarde les gens avec bienveillance, il regarde avec son métier, toujours avec passion. Et ça me fait penser un peu à Brel, qui est passé par la chanson, qui a dit « j'arrête la chanson, je passe par la réal, je fais de la réal, je suis pas acteur, j'arrête la chanson. Puis maintenant, je vais prendre un avion. » Et puis je vais amener des médicaments dans les îles, dans les Marquises. Et je vais me faire ma vie. Et ma vie, elle mesure ça. Et je vais en faire quelque chose de bien. Je pense que c'est quand même l'idée. Te faire une belle vie. Fais-toi une belle vie.
Mais faire une belle vie, pour vous, ça pourrait passer par le fait d'un seul coup de pouvoir reprendre les rênes de la réalisation et de vous dire « je réalise quelque chose, par exemple ».
Si je devais faire un film, j'en ferais... Alors moi, j'ai toujours imaginé que je serais un metteur en scène vraiment à 65 ans. Je ferais un film... Ça racontera sûrement un truc de moi, peut-être la petite enfance d'ailleurs. Ça sera sûrement à hauteur d'enfant. Je vois, je sais pas pourquoi, mais je vois une caméra dans la nuque d'un enfant. Et en CM1, voilà, avec une nuque froide.
Ça veut dire que tout ce que vous jouez, il n'y a rien qui
compte.
Il y a rien
la nuque
qui...
froide.
Tout ce que vous jouez, ça ne comblera jamais ce désir de raconter cette chose-là. Vous n'avez pas trouvé encore un rôle qui pourrait calmer cette envie de raconter la nuque froide?
Non, je l'ai raconté par Brice. Je l'ai frôlé, je l'ai... Non, frontalement, non, je ne l'ai pas attaqué.
Et qu'est-ce qui reste, par exemple, qu'est-ce qui existe de cette nuit froide dans J'accuse, par exemple, vous pensez?
La force de l'isolement, la résistance aux pleurs.
Ouais.
Les ressources inimaginables qu'on a dans ces moments-là. C'est très dur, l'humiliation. C'est un truc qui me rend fou. Voir quelqu'un humilié, ça peut me rendre dingue. Parce que c'est un truc que j'ai...
j'ai transpiré très fort. Et quand tu vois quelqu'un qui te dit ça va, t'en as pris dans la gueule, hein, ça va. Sans ça va, tu sais pas s'il est très très bienveillant, mais en tout cas, tu sais qu'il faut pas pleurer, faut tenir. Bah, des fois, c'est ça, dans les rôles, des fois, faut pas pleurer.
Résister aux pleurs.
Résister aux pleurs, par dignité, par orgueil, et puis parce que tu peux te le permettre, quoi, parce que t'as, tu sais, c'est comme l'apnée, des fois, quand tu nages, tu te dis, j'ai plus d'air, mais en fait, si, t'as encore l'air dans les poumons, donc ça va. Donc en fait, ça va, t'es pas obligé de te répandre tout de suite.
Et remplacer le pleur par faire rire plutôt les gens, pour le retourner.
Ça, c'est une arme absolument géniale. Ouais. Ça, c'est la meilleure, d'ailleurs. C'est ce qui m'a toujours sauvé en cours, d'ailleurs. En cours, j'étais nul au tableau, mais il y a un truc où je gagnais à chaque fois, c'était t'imites le prof, quoi. Donc tu fous la honte au prof,
ouais.
T'as la classe pour toi, t'as 3 sur 20, mais t'as...
Alors, c'est ce qu'on va faire.
En CM2, t'as les nanas qui font « Ah, c'était super drôle, tu sais, ouais, j'ai pas envie d'en parler. »
Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant, on va vous applaudir et vous remercier.
Merci. Merci. C'est gentil. Et c'était chouette. Bien, on s'est applaudi.
Ça marche pas avec moi parce que moi c'est pire, j'étais au milieu. C'est
encore pire.
Quand on est nul, c'est génial. Quand on est le meilleur de la classe, c'est super. Quand on est nul, on peut faire une carrière comme vous en disant j'étais nul et tout le monde vous adore. Quand on est au milieu, c'est le pire.
Oui.
Je suis suisse, j'ai eu la moyenne.
Mais je comprends. Et ben, en fait, maintenant, c'est un peu ça que je veux. C'est-à-dire que je veux pas être forcément. Je veux plus être au fond, mais je veux pas être en premier rang non plus.
Mais bien être au milieu.
Au milieu.
Ceux qui disparaissent.
Tu participes. Ouais. Voilà.
Merci beaucoup, Jean.
De rien. Merci à vous. Hein.
Merci.
Ah oui.
Et peut-être